Le Salon Noir. Voici un an, Gilbert Kennel de l'Université de Genève me contactait pour m'informer de la découverte d'un grand site celtique au cœur de la Suisse. Fin octobre, un autre chercheur, Patrice Méniel, directeur de recherche au CNRS, m'adressait le mail suivant. Je repars en Suisse lundi matin. Voici quelques détails. La fouille se termine, mais il reste des fosses en cours de dégagement. Certaines très intéressantes, dont celles que je fouille depuis juillet, avec chevaux, vaches, brebis et porcs. Du mobilier métallique en dessous, du fer qui apparaît et du bronze qui sonne. Le site est au-dessus de la commune de Lassara, c'est à mi-chemin entre le lac de Neuchâtel et celui du Léman, soit entre Lausanne et Yverdon. Je loge dans une auberge cantonale typiquement vaudoise, à Goyon, et commence à 7h30 et on arrête à 16h30, horaire de carrière. Si tu peux venir. De fait, Patrice Méniel, c'est vous qui aujourd'hui êtes parmi nous pour nous parler de ce grand site, le Mormont, un sanctuaire celtique appartenant aux Helvètes. On peut imaginer, Patrice Méniel, que la fouille 2010 est actuellement terminée ?
Pas tout à fait, puisque en fait une partie du site qui correspond à l'emprise de la carrière actuellement n'est pas encore complètement dégagée et donc il reste encore quelques secteurs à décaper et malheureusement avec les conditions climatiques, on peut imaginer les difficultés que rencontre l'équipe sur le terrain.
C'est-à-dire que les archéologues fouillent, les proto-historiens devrais-je dire, fouillent actuellement sous la neige ?
Alors ils fouillent effectivement les dernières fosses de la concession actuelle de la carrière et c'est dans des circonstances évidemment très difficile, comme beaucoup de circonstances autour du Mormont l'ont été, notamment au début de l'opération.
Il semble donc s'agir aussi d'une carrière, vous le disiez d'ailleurs dans votre mail, un site donc qui semble voué à la destruction.
Alors effectivement, ce site a été découvert suite aux travaux préliminaires à l'extension de la carrière. C'est une très grande cimenterie, Holcim, pour ne pas la citer, qui participe activement d'ailleurs au financement et à l'aide technique sur le terrain et qui est très visible dans le paysage. On peut voir cette carrière sur Internet directement, vue du ciel. Et cette carrière mange la colline petit à petit et le site est donc voué à destruction, malheureusement, très rapidement.
Le site n'aurait jamais été vu avant cette découverte très récente ?
Alors le site était complètement inconnu. D'ailleurs, lors des travaux de prospection qui ont eu lieu en 2006, n'a été trouvé qu'un fragment de voie et quelques fosses. Et l'hypothèse suite à cette évaluation était celle d'un petit habitat au sommet de la colline, ce qui avait donné lieu à une autorisation de 3 semaines de fouille. Et vous voyez, la fouille n'est pas encore tout à fait achevée. Et c'est un site pour lequel on n'a aucune idée de son environnement archéologique immédiat.
Alors, ce qui est très aussi intéressant, c'est que nous serions donc sur un site totalement vierge de collection des antiquaires du 19e siècle, vierge d'intervention d'archéologues du début du 20e.
Alors,
tout
oui,
est là, tout est à découvrir.
Tout est à découvrir, effectivement. Il y a une très vague mention que Gilbert Kennel a découverte dans un dictionnaire historique de la Suisse, de découverte de monnaie au début du XXe siècle, mais c'est tout. Et donc, pour l'instant, on intervient sur un site qui est une terre complètement inconnue, sans environnement archéologique, en dehors des limites du décapage, qui fait que ce site, en fait, qui se présente comme un oppidum naturel, hein, on est sur une colline dont l'altitude maximale est d'environ 600 mètres. Le site lui-même est vers des altitudes vers 570 mètres, qui domine la plaine à d'une bonne centaine de mètres d'altitude. Et ce site est protégé sur pas mal de ses faces par des falaises naturelles. Donc ça pourrait être un site d'oppidum, en fait, naturel, naturellement.
Alors un oppidum, il faut peut-être le dire, c'est une cité celtique.
Une cité celtique, une place forte qui normalement est renforcée de remparts, sauf quand la nature s'y prête avec des défenses naturelles. Et c'est le cas au Mormont. Le seul problème, c'est qu'on n'a aucune prospection pour l'instant sur ce site et qu'on ne sait pas du tout, en dehors des limites du décapage, s'il y a un habitat, s'il y a un village ou si c'est un désert.
Alors je reviens un peu sur ce caractère vierge du mormon pour quand même signaler que très souvent les sites celtiques ont été extrêmement recherchés depuis très très longtemps, quelquefois pillés très tôt, pillés aussi au 19e. Et vous d'ailleurs, vous travaillez avec quelqu'un qui aujourd'hui fouille par exemple des tombes à chars qui ont été à maintes reprises pillées et on continue encore à trouver des choses, c'est bien ça ?
C'est bien ça. Donc là vous faites allusion à Bernard Lambeau qui effectivement suit notamment à ses prospections aériennes en Champagne, découvre des tombes à chars qui ont été fouillées anciennement, dont certaines sont très prestigieuses, qui figurent dans les grandes collections nationales en France ou à l'étranger. Alors que sur le Mormon, c'est un site où il n'y a aucun moyen de faire de prospection aérienne. On est sur un terrain extrêmement mouvementé, largement couvert de forêts, et sur lequel il n'y a aucune méthode de prospection. Et le mobilier archéologique provient de structures profondes qui ne laissent rien apparaître en surface.
Le site donc du Mormon est une butte de 2,5 hectares. C'est assez peu pour une ville.
Non, je crois que c'est beaucoup plus que ça en fait. La colline elle-même mesure environ 2,3 km de long sur environ une largeur qui varie beaucoup, mais d'environ 500 mètres. Donc c'est beaucoup plus que la surface, je pense, du site tel qu'il a été décapé. La colline est donc très grande. Le site lui-même tel qu'il est dégagé actuellement correspond à une sorte de terrasse en dessous du point culminant du site lui-même, une sorte de terrasse, de plateforme avec un encellement où était trouvé l'essentiel des structures très concentrées dans la première année de fouilles en 2006. Et depuis, ce site, en fait, on n'a pas trouvé de limite et on a des structures qui s'étendent sur d'autres versants, ce qui donne une topographie extrêmement complexe. Et une des caractéristiques du site, c'est qu'on ne voit pas le cœur, en fait, très, très dense en structure, de l'ensemble des zones occupées par ces fosses.
Le fait que le sanctuaire soit au sommet d'une colline a probablement du sens.
Sans aucun doute. On connaît plusieurs exemples. Il y en a un pas très loin d'ailleurs du Mormon, mais qui est connu par un sanctuaire gallo de la période romaine, sur le Mont Landru, au sommet en fait d'une petite montagne. Ça, ce sont des lieux qui sont occupés par des lieux de culte. On en connaît quelques exemples.
Et quelle est la chronologie exacte de ce site, de ce sanctuaire ?
Alors la chronologie exacte est assez bien établi puisqu'on a un mobilier notamment métallique extrêmement riche qui est étudié par Gilbert Quesnel qui nous donne toujours des dates très très restreintes en fait très très condensées autour des années 100 avant notre ère. Depuis, on a également eu des premières informations de datation en dendrochronologie, donc sur des bois.
Donc les cernes bois, des arbres.
Des cernes, des bois avec des écorces qui nous donnent des dates d'abattage, mais qui sont encore en phase de validation, mais qui donnent des résultats convergents, toujours vers moins 100 avant notre ère. Donc on a un site qui est très particulier parce qu'il est très bien daté. On a vraiment un mobilier extrêmement abondant et il est très d'une période de fréquentation très brève par rapport à tout ce qu'on connaît de sanctuaires en Gaule, par exemple, qui sont toujours occupés sur des périodes de quelques siècles, voire d'un millénaire et demi quand on va à Ouessant, par exemple, où là, on a une durée d'occupation qui va de l'âge du bronze jusqu'à la période romaine.
En Suisse, on connaît bien sûr des sanctuaires celtiques. Le plus fameux est sans nul doute celui de La Tène, T-E-N-E, et qui a d'ailleurs donné son nom au deuxième âge du fer, la période laténienne. Tout ça est un petit peu compliqué et du langage d'archéologue. En tout cas, à quelle occasion le sanctuaire du Mormon aurait pu-il être créé ?
Alors, ce sanctuaire, s'agit-il d'un sanctuaire ? Ça, moi, pour l'instant, c'est quelque chose au sein de l'équipe que j'essaye d'attirer l'attention sur le fait qu'on n'est pas certain qu'il s'agit d'un sanctuaire, au sens où les collègues l'entendent, notamment lorsqu'on essaye d'établir un dialogue entre proto-historiens et spécialistes de l'Antiquité. On a une espèce maintenant de lieu de convergence où on arrive à discuter au-delà de la frontière de la civilisation entre les barbares et les grandes civilisations, entre les gens qui ont des textes et ceux qui n'en ont pas. Et donc là, il y a une notion de sanctuaire gaulois qui s'est un peu développée depuis la découverte fondatrice de Gournay-sur-Aronde, pour lesquels le Mormon, on n'a pas tout à fait les mêmes indices pour parler d'un sanctuaire dans ce sens-là.
On peut parler de site rituel, c'est plus
large. On peut parler
de
site rituel, de lieu de culte, ça, et encore, pour moi, ça sort toujours de l'hypothèse. Peu importe. À quelle occasion on a pu créer un tel lieu? C'est évidemment extrêmement impossible à dire. On peut avoir des hypothèses, bien sûr. Cette date de moins 100, en fait, elle a plusieurs consonances. Dans l'histoire, le passage des Cimbres et des Teutons en Helvétie. C'est également un autre événement fixé par les archives lacustres du lac de Neuchâtel, qui est un événement hydrologique majeur. Alors, mes collègues géoarchéologues de Dijon parlent de tsunami, c'est-à-dire d'un raz-de-marée qui aurait été créé suite à une secousse sismique et qui aurait créé une énorme vague, une succession de vagues avec des fréquences et qui ont créé des dépôts sédimentaires typiques de ce type d'événement qu'on connaît malheureusement bien maintenant depuis Banda Aceh. Et on a retrouvé ce même type de dispositif dans les tri des sables sur les plages, vers moins 100, donc autour du lac de Neuchâtel.
Donc cet événement a détruit tout ce qui était autour du lac.
Alors, aurait détruit beaucoup de choses, et en particulier un site qui a posé des problèmes pendant un certain temps, qui est le site du pont de Corneau, qui est en aval du lac de Neuchâtel. C'est une fouille qui avait lieu dans les années 60, suite aux corrections des eaux du Jura. Et on a une destruction par une vague violente de cet édifice dans ces dates-là. Faut-il relier les événements? Je ne pense pas. Mais en tout cas, il faut signaler toutes ces possibilités en fait, qui ont touché la région. Et puis, il peut y avoir bien d'autres raisons, bien évidemment, qui nous échappent totalement, sachant qu'on n'a aucune archive textuelle pour ces périodes.
Ce qui est très intéressant aussi, c'est que le Mormon est visiblement une chronologie extrêmement réduite. Une, deux, peut-être trois décennies.
Alors, oui,
c'est très court.
C'est très court. C'est un instantané archéologique, c'est-à-dire qu'on a des indices chronologiques donné par le matériel archéologique, c'est-à-dire des durées de vie d'objets. Et donc, même si tout converge vers moins 100, ces durées de vie d'objets, évidemment, on peut avoir, notamment pour les objets métalliques, des transmissions. Même pour la céramique, on a connu des dépôts d'antiquité dans des sépultures plus récentes que la date de fabrication du vase. Donc, il y a toujours un flou dans les datations archéologiques, à moins d'avoir des choses comme la dendrochronologie qui, elle, donne des vraies dates avec les saisons. Et là, donc, on est forcément avec une marge d'incertitude. Mais rien n'empêche que ça soit passé en quelques mois, quelques années, après la lecture qu'on a de prudence physique et de l'ordre d'une vingtaine d'années.
Les Helvètes sont un des grands peuples celtes. Que sait-on sur leur histoire ? Visiblement, pas grand-chose.
Alors,
la grande migration, quand même.
La grande migration, qui est relatée par César dans la guerre des Gaules, qui est même d'ailleurs un des motifs de l'intervention de César. On connaît en fait assez peu de choses, et ça, Gilbert Quesnel nous a fait très belle série d'exposés au Collège de France l'an passé sur ces Helvètes. En fait, on connaît des sites archéologiques majeurs, dont l'Athènes, qui a déjà été cité, des nécropoles de très grande importance qui ont permis de compléter la chronologie. Les archéologues sont toujours férus d'éléments de datation, évidemment, et la chronologie des sépultures de Münzingen, par exemple, est quelque chose d'extrêmement important. Après, sur les Helvètes eux-mêmes, on a quand même beaucoup de zones de flou sur leurs limites, leurs frontières, leur histoire même, tout ça reste encore bien, bien difficile à retracer avec certitude.
Dans ce sanctuaire de Mormon, les Celtes sont venus bien sûr déposer des offrandes. De quoi s'agit-il généralement?
Alors les dépôts en fait sont composites, c'est-à-dire qu'on y trouve des associations de mobilier extrêmement divers. De mobilier qui sont rassemblés là à l'état de collection très importante pour nous. On a par exemple, alors je n'ai pas les chiffres exacts hein, puisque la fouille n'est pas encore achevée, donc je n'ai que des ordres de grandeur, mais on a environ 150 meules à grains complètes. On a une série de céramiques extrêmement importantes, du mobilier métallique, du fer avec des outils, des accessoires de cuisine, des grilles, des fourches, un chaudron, des outils, des haches, également des entraves, des crémaillères, etc. On a du mobilier en bronze aussi très spectaculaire avec une série de chaudrons complets, des situles, tout ça restauré au musée de Lausanne. On a aussi beaucoup de restes humains, des restes humains très, très importants et des restes animaux. Alors, l'une des caractéristiques de ces dépôts, c'est qu'ils mêlent en fait tous ces ingrédients, et j'en ai oublié évidemment, il y a aussi des bijoux, des choses comme ça, quelques monnaies. Ils mêlent ces éléments en fait selon des formules qui pour l'instant nous paraissent complètement aléatoires. Et l'étude qui commence en fait va essayer d'instaurer un ordre, de retrouver des règles éventuelles de composition de ces dépôts.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en général, dans les sanctuaires celtiques, dans les sanctuaires gaulois, on expose beaucoup. Là, visiblement, tout est inséré dans des fosses.
Alors, tout le matériel que l'on retrouve est effectivement enfoui dans des fosses. Alors, ces fosses, ce sont pour la plupart, hein, il y en a plus de 200 maintenant, entre 200 et 250. Ce sont des fosses cylindriques, verticales, de diamètre compris entre 80 cm et 2 mètres à l'ouverture, et de profondeur variable, une limite étant donnée par le banc de calcaire, en fait, parce que ces fosses sont creusées dans de la moraine, et les plus profondes atteignent 5-6 mètres, les moins profondes 80 cm. Et c'est donc dans ces fosses que tout le mobilier retrouvé sur le site a été enfoui, et on n'a évidemment aucune idée de ce qui se passait en surface, et de dispositifs d'exposition ou de choses comme ça, puisqu'on n'a que des structures en creux.
Patrice Maniel, les corps humains sont visiblement très nombreux. Or, visiblement, nous n'avons pas affaire ici à des sépultures.
Alors, les restes humains qui sont étudiés par Patrick Moina, donc je me permets de faire état de résultats qui sont en cours d'élaboration et pas du tout de choses définitives, se présentent sous différentes formes. Il y a des squelettes complets, il y a des parties de corps et il y a des ossements épars. Alors, les squelettes complets, en fait, on peut avoir plusieurs types de situations. Certains, dans des grandes fosses, sont en position qui rappelle des sépultures, c'est-à-dire des gens couchés avec même des offrandes. D'autres, par contre, ont des positions extrêmement variées, variables, et certains sont incomplets, ce qui montre qu'on n'a pas une sépulture immédiate dans ces cas-là, ou des reprises. On a des histoires beaucoup plus compliquées, complexes, qui donnent une image d'une très grande diversité pour l'instant, avant que les choses puissent être classées et ordonnées quand on aura la vision d'ensemble.
Mais j'ai vu cette photo très impressionnante d'une jeune fille ou d'une femme absolument visiblement entière, dont il manque la mandibule, le maxillaire inférieur.
Alors c'est...
Il y a donc des prélèvements sur les individus.
Effectivement, là, il s'agit d'un crâne et accompagné de ses vertèbres cervicales sur lequel on a énormément de traces de découpe qui témoignent du prélèvement de la mandibule. Alors les mandibules au Mormon, c'est quelque chose d'important puisqu'on n'a quasiment pas de mandibule humaine en dehors de celles qui figurent sur les squelettes complets. Et par contre, on a un sureffectif de mandibules de bœuf. Donc il y a déjà là des coïncidences, des convergences, des associations opérées.
Il y a aussi des individus qui sont mis tête en bas.
Alors, il y a toutes les positions semblent possibles. Tête en bas, je n'ai pas de souvenir exact, mais c'est, à mon avis, possible. Je n'ai pas toute l'étude en tête, évidemment.
Et puis, certains corps paraissent assis. Cela rappelle, bien sûr, une pratique découverte dans le nord de la France, des sortes de momies, disons-le.
Alors, oui, effectivement, là, il s'agit d'analogies avec Assyromance, mais il se trouve que Patrick Moina en a étudié d'autres, en Suisse notamment. Il y en a à Vanche, qui n'est pas très loin du Mormon. Il y en a à Genève, je crois, et puis d'autres ont été découvertes en Gaule ces dernières années. Donc c'est toute une série en fait de sépultures en position assise qui se complètent petit à petit et dans lequel celle du Mormon semble apporter un complément.
On serait sur des individus donc peut-être en position d'orang carrément. On a dit aussi que les individus auraient été momifiés, séchés.
Alors là, deux questions en fait. Position d'orang, si effectivement il s'agit d'individus assis. Alors moi, une question que je me pose, c'est que si on met un individu les pieds devant dans une fosse cylindrique étroite, les effets du tassement risquent aussi de donner un peu accidentellement des positions analogues à des assis. Donc ça, c'est une possibilité aussi qu'il ne faut pas non plus complètement écarter. Et puis le cas des momifications, effectivement, on a, alors pour les humains, je ne sais pas encore, mais pour les animaux, on a des cas de déplacement de choses plus ou moins sèches qui semblent s'avérer.
Certains os du Mormon, Patrice Maniel, sont découpés, d'autres semblent rôtis.
Alors, pour les os humains, toujours, je pense qu'effectivement, on a des traces qui sont indiscutables, des traces d'outils en fer, donc des traces de découpe. Il y a aussi des traces de coups. On a aussi des traces d'exposition au feu qui ne sont pas du tout des traces comme on les a sur les corps incinérés, mais des traces d'exposition au feu qu'une étude récente de Patrick Moina, notamment en relation avec des travaux de médecins légistes, montre comme dues à des expositions à des feux violents, mais assez brèves.
Une sorte de coup de feu.
Une sorte de coup de feu, voilà. Donc des analogies qui sont assez troublantes en fait entre ces cas de médecine légale actuelle et puis les observations qu'il a pu faire sur ces squelettes.
Mais ces coups de feu ne sont pas portés sur des individus entiers, ils sont portés sur des animaux, sur des morceaux d'individus.
Oui, c'est bien ça le problème, c'est qu'en fait on n'a pas exposé à la flamme des individus complets, mais bien des gens qui avaient été en partie découpés, notamment les extrémités de côte qui sont exposées à la flamme, portent la trace de cette trace de brûlure, en fait, qui pose d'énormes problèmes d'interprétation.
Alors bien sûr, on est obligé d'y venir. Hein. Doit-on y voir quelques cannibalismes, sujet sur lequel le Salon Noir reviendra dans une émission prochaine avec Georges-Guy Escuret, qui vient de sortir un livre sur le sujet.
Alors effectivement, alors c'est pas tant par ces corps dont on vient de parler que la question se pose que par des ossements que l'on trouve mêlés à des restes de banquets, où on trouve des restes d'animaux découpés, cuits, avec de la céramique cassée qui, pour moi, évoque des banquets, et dans lesquels on trouve quelques os humains qui sont aussi découpés. Et donc là, la question effectivement se pose, parce qu'on est dans le contexte interprétatif, donc toujours sujet à discussion, mais d'un banquet. Donc là, on a effectivement plusieurs cas troublants qui posent la question.
Il faut rappeler que les banquets celtiques sont un peu à l'image de ceux de Rome et de la Grèce. C'est une chose extrêmement fréquente dans le monde antique.
Effectivement, on a pas mal de lieux de culte où les banquets sont attestés et on connaît relativement bien maintenant les indices archéologiques pour les reconnaître. On a des exemples dans le nord de la France, à Coron, etc. Dans plusieurs sanctuaires gaulois, on a des traces de banquets et aussi dans des sites qui ne sont pas forcément des sanctuaires, des résidences, où on a des amas d'ossements, notamment, qui témoignent de consommation de grandes quantités de viande et qui donc ouvrent à l'interprétation du banquet.
Patrice Manuel, je rappelle pour nos auditeurs de France Culture que vous êtes directeur de recherche au CNRS et même archéozoologue. Vos travaux ne concernent donc pas les hommes, mais les animaux. Et là, il y en a encore beaucoup, donc beaucoup d'animaux, surtout domestiques.
Effectivement, beaucoup, puisque là, le dernier décompte est de plus de 300 animaux qui sont presque exclusivement des animaux domestiques, c'est-à-dire que les animaux sauvages sont quasiment absents, il y en a quelques rares restes, ainsi que les oiseaux. Très curieusement, on n'a que deux os de poules. Et donc, on a un cheptel, si on peut dire, essentiellement composé de bœufs, de chevaux, de porcs, de moutons, de chèvres et de quelques chiens.
Et alors là aussi, on a des animaux visiblement entiers qui auraient été sacrifiés. Vous parliez de chevaux, on pensait même à des chevaux qui auraient été saignés.
Alors effectivement, on a des animaux qui se présentent un peu comme les restes humains, en fait, sous forme de squelettes complets, sous forme de morceaux d'animaux et sous forme d'ossements. Alors les ossements, les morceaux d'animaux, en fait, il y a des morceaux d'animaux qui sont assez classiques en termes de boucherie, c'est-à-dire quand on découpe un animal, quelquefois on produit ce qu'on appelle des parties en connexion, des morceaux de jambes, de talons, de choses comme ça. Et puis on a des parties anatomiques beaucoup plus originales qu'on ne connaît pas normalement dans les traitements bouchers classiques. Alors la grande question qui est soulevée par ces animaux, notamment ceux qui sont présents en état de squelette, c'est leur mise à mort, qui n'a pas laissé de traces sur les quelques crânes qu'on a pu observer. Il faut préciser, je ne l'ai pas fait, que les ossements humains et animaux du site sont très mal conservés, malgré ce que laissent supposer les quelques photos qui sont diffusées, qui montrent des dépôts magnifiques, qui sont fouillés très finement. Mais l'état de conservation est très mauvais en général, et en particulier sur les crânes. Il est donc difficile d'y lire d'éventuelles traces de mise à mort.
Juste en quelques mots, puisque le temps tourne, une vache aurait été aussi suspendue au-dessus d'une fosse?
Alors, on a plusieurs cas, effectivement, d'évolution du squelette dans ces cylindres, en fait, qui sont extrêmement complexes. Et une de ces fosses, un peu plus grande que les autres, a livré un squelette de vache qui, en fait, est coupé en deux naturellement, visiblement par la décomposition. Et une des hypothèses, ça serait qu'il ait été suspendu Et notamment, cela peut se voir au niveau des doigts, des pattes antérieures qui ont été séparées des pieds d'une manière tout à fait troublante et inhabituelle et qui laisse supposer un mode de suspension à ce niveau.
Ces pratiques, ces coutumes très violentes sont-elles déjà connues dans le monde celtique ?
Alors on a des exemples de ces gestes, mais on ne les a pas en telle quantité rassemblés sur un même lieu. Ce qui est très spectaculaire ici, c'est l'abondance du mobilier, sa concentration dans des dépôts successives, dans quelquefois à plusieurs reprises dans une même fosse, la brièveté d'occupation des lieux. Donc ça, c'est tout ça fait que le Mormon est un lieu pour l'instant unique un peu dans la civilisation celtique.
Alors, Patrice Manel, j'en reviens à ce que vous me disiez tout à l'heure. Sommes-nous réellement sur un sanctuaire ? Est-ce que ça ne pourra pas être autre chose ? Il y a bien d'autres choses. Les trophées, par exemple ?
Alors, le trophée, évidemment, on pense aux trophées guerriers comme on les connaît en Gaule du Nord. Il se trouve qu'on n'a aucune arme aux Mormons. Donc, cette hypothèse de trophée, elle est malheureusement difficile à soutenir.
Vous avez des esclaves, puisque vous avez des entraves.
Alors, il y a des entraves, effectivement. Ça pose c'est des choses qu'on ne connaît pas beaucoup dans ce type de contexte. Ce qui pose problème pour cette interprétation, c'est qu'on n'a pas de limite au site et qu'on n'a aucune idée de son environnement immédiat. Et donc on ne sait pas si c'est un lieu de rassemblement d'une région de plaine autour, si c'était un lieu de concentration d'une population réfugiée, assiégée, que sais-je. Les hypothèses, comme on n'a aucune information en dehors des limites du décapage, sont extrêmement ouvertes. Et vous comprendrez que je ne puisse pas interpréter aujourd'hui cette chose-là avec vous.
Et justement, à quel dieu ce sanctuaire, ce grand sanctuaire, pourrait-il être dédié ? Probablement pas à un dieu de la guerre, d'ailleurs, puisque visiblement, il n'y a pas d'armes découvertes sur le terrain.
Non. Alors, on a parlé beaucoup d'enfouissement, donc de divinités qu'on pourrait essayer d'interpréter en termes teutoniens, c'est-à-dire des divinités souterraines qu'on nourrit avec des choses qui se décomposent dans le sol, mais il se trouve qu'on a aussi des contre-exemples, c'est-à-dire qu'on a quelques fosses qui contiennent des mobiliers, notamment des ossements, des animaux complets incinérés, et donc qui ont été, si on raisonne dans ce terme de pratique et d'association et d'attribution à des divinités, plutôt orientées vers le ciel, vers les divinités uraniennes. Et donc vous voyez que le champ des interprétations est très large et qu'il est évidemment impossible, en l'absence d'inscription, de texte ou de statut, de faire des attributions à des divinités.
En 5 secondes, toutes ces pratiques nous permettent bien sûr de mieux comprendre les pratiques religieuses des Helvètes et aussi celles des peuples celtiques de l'Europe occidentale.
Oui, bien sûr, ça va compléter le panel de nos découvertes. Et la découverte du Mormon, qui est complètement d'un type nouveau, montre toutes les limites de notre archéologie, c'est-à-dire qu'on est soumis à la découverte instantanée du jour au lendemain et qu'il est donc très difficile et impossible de programmer la recherche dans ce domaine.
Patrice Manel, merci beaucoup. Et puis, bien sûr, tenez-nous au courant de l'avancée de ce superbe chantier. La semaine prochaine, le Salon Noir sera consacré aux Incas. Le Salon Noir a été réalisé par Luc-Jean Reynaud, à la technique Sébastien Perron. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page du Salon Noir sur le site franceculture.com ou retrouver 3 ans d'archives du Salon Noir sur le site inrap.fr.